bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un autre mensonge de la Bible. Le mensonge du salut par le sang. Épisode 9. Le mensonge du salut par le sang. Depuis le commencement de cette traversée à travers les grands mensonges de la foi, une vérité s'impose. Plus l'humanité a cru honorer Dieu, plus elle a trahi sa propre humanité. Du jardin mythique de la Genèse jusqu'à la croix du Golgotha, la même logique s'est maintenue. Celle d'un Dieu qui exige, d'un peuple qui se soumet et d'un sang qui coule pour apaiser une colère invisible. Nous avons vu comment la religion a bâti la culpabilité de l'homme sur le péché originel. Mais cette culpabilité, pour être efficace, devait trouver un prix. Et ce prix, c'est le sang. Non pas le symbole de la vie, mais la monnaie du pardon. Le mensonge du salut par le sang est l'un des plus sombres jamais inventés. Il affirme que la souffrance d'un innocent peut racheter la faute des coupables. Il proclame que le sang d'un homme versé sur un bois aurait lavé l'humanité entière de sa faute imaginaire. C'est la perversion suprême de la justice. Faire de la mort une rédemption, de la douleur un passage obligé et du sacrifice un acte d'amour. Ce mensonge a nourri des siècles d'adoration morbide, de crucifixion spirituelle et de crainte redoutable. Car si Dieu a besoin du sang pour pardonner, alors la violence devient sacrée. Et si la croix sauve, alors la souffrance devient vertu. Le sang comme monnaie du ciel. Dans la religion primitive, le sang représentait la vie. On l'offrait aux dieux pour leur rendre hommage, comme on offrait les premiers fruits, le vin ou les bêtes grasses. Mais avec le temps, l'offrande devint rançon. Les prêtres et les pasteurs, gardiens du mystère, ont compris que la peur de la colère divine était plus puissante que la gratitude. Alors, on enseigna que le pardon ne se gagnait pas par le bien, mais par le sang. Que la faute se payait dans la chair, dans la douleur, dans la mort. Ainsi naquit la logique sacrificielle. Pour plaire à Dieu, il faut tuer. Et pour sauver les hommes, il faut faire couler le sang d'un autre. Ce dogme est la racine théologique de toutes les violences sacrées, guerres saintes, inquisitions, colonisations chrétiennes, bûchers et croisades. Partout, la croix marchait main dans la main avec l'épée. Car si Dieu aime le sang, alors le meurtre devient prière. Le Christ, victime et instrument. La religion chrétienne a perfectionné cette logique. Elle n'a pas aboli le sacrifice, elle l'a spiritualisé. Au lieu d'agneaux et de taureaux, elle a offert un homme. Mais pas n'importe lequel, le Fils de Dieu. Le récit dit que Jésus, crucifié, aurait offert sa vie pour les péchés du monde. Que son sang, répandu sur la croix, aurait lavé la faute originelle. Mais quel Dieu, si ce n'est un monstre immoral, aurait besoin de tuer son propre fils pour se sentir apaisé? Quelle justice exigerait la mort d'un innocent pour les fautes d'autrui? Ce dogme renverse toute morale. Il glorifie la souffrance, il sanctifie la torture, il transforme la douleur en valeur rédemptrice. Et cette logique a pénétré profondément l'esprit occidental. On y a appris que le bonheur est suspect, que la joie est impure, que la douleur seule rapproche du divin. Ainsi, le Christ n'est plus un libérateur, mais une rançon. Sa mort est devenue un commerce spirituel. Le sang, les larmes et les souffrances sont devenus le prix de la rédemption. Le sang et le pouvoir. Les prêtres et les pasteurs ont très vite compris la puissance de cette idée. Celui qui détient le monopole du pardon détient aussi le pouvoir sur les consciences. Ainsi, ils ont fait du sang versé le centre de la liturgie, Eucharistie, messe, confession, pénitence. À chaque messe, on boit symboliquement le sang du Christ et on mange son corps. Le rituel se répète, la mémoire du sacrifice se perpétue et la peur se maintient. Ce rite n'est pas anodin. Il ancre dans les esprits la conviction que la violence divine est légitime, qu'un Dieu d'amour puisse exiger le sang est une contradiction que la foi n'a jamais voulu affronter. Mais elle a trouvé son utilité. Un peuple qui croit devoir être sauvé ne conteste pas ses sauveurs. Le pouvoir politique de Constantin à nos jours a compris cette mécanique. La croix est devenue un drapeau, le sang une bannière et la foi un outil de guerre. On a baptisé des épées, béni des bombes, sanctifié des trônes. Le sang du Christ, censé unir, a justifié le sang des hommes versé sur les champs de bataille. L'amour travesti. Le mensonge du salut par le sang, c'est aussi le détournement du mot amour. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais donner son Fils à la mort, est-ce vraiment aimer? Ou est-ce la manifestation d'un pouvoir total, d'une autorité qui se déguise en tendresse? Ce prétendu amour divin a enseigné au peuple à accepter la douleur comme preuve de foi, à supporter l'injustice avec patience, à aimer leur propre humiliation. Des millions de fidèles ont cru que souffrir était un devoir, que leur malheur plaisait à Dieu, que leur sang, leurs larmes et leur renoncement les rapprochaient du ciel. Ainsi, l'amour du Christ, au lieu d'être en libération, est devenu soumission. Et la foi, au lieu d'être lumière, est devenue ombre. La vraie rédemption. Le sang ne sauve pas. il tâche, il enchaîne, il rappelle la barbarie des dieux inventés par la peur. Ce qui sauve, c'est la conscience, la lucidité, la compassion véritable. Aucun être injuste n'exigerait la mort d'un innocent pour absoudre la faute d'un autre. Aucune sagesse n'élèverait la torture au rang de vertu. Le véritable salut ne vient pas du sang, mais de la réconciliation avec soi-même, de la libération de la peur, de la reconnaissance de notre propre responsabilité. Le Christ historique, s'il a existé, n'a probablement jamais voulu que son nom serve à fonder une religion du sacrifice. C'est l'institution religieuse qui a fait de sa mort un marché, de son sang une marque et de sa croix un emblème de pouvoir. Ainsi se dévoile l'un des plus puissants mensonges de l'histoire religieuse, celui du salut par le sang. Une idée qui a transformé l'humanité en troupeau de coupables, la foi en industrie de la peur et la mort en instrument de domination. Depuis des siècles, les hommes boivent symboliquement le sang d'un autre pour se croire sauvés. Mais tant qu'ils boiront ce mensonge, ils demeureront esclaves, car ce n'est pas la mort d'un juste qui rachète la vie des injustes, c'est la lucidité des vivants qui rachète la bêtise des croyants. Le véritable salut n'est pas une promesse après la mort, mais une délivrance de la servitude mentale. Ce n'est pas le sang versé qui purifie, c'est la vérité comprise. Et cette vérité, simple et nue, dit ceci: nul dieu d'amour ne demande le sang. Ceux qui ont besoin de sang ne sont pas des dieux, mais des hommes qui veulent dominer. Lorsque l'humanité cessera de chercher la rédemption dans la douleur, elle découvrira enfin que la vie n'a jamais eu besoin d'être sauvée. Car le seul vrai miracle n'est pas dans le sacrifice, mais dans la conscience retrouvée de notre dignité. Et ce jour-là, le calvaire cessera d'être un lieu de mort. Il deviendra le symbole de la plus grande des résurrections, celle de l'esprit libre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode pour questionner un autre mensonge biblique qui façonne encore nos mentalités, parfois à notre insu.